Maupassant, l'Odyssée d'une fille. Oui, le souvenir de ce soir-là ne s'effacera jamais. J'ai eu, pendant une demi-heure, la sinistre sensation de la fatalité invincible. J'ai éprouvé ce frisson qu'on a en descendant au puits des mines. J'ai touché ce fond noir de la misère humaine. J'ai compris l'impossibilité de la vie honnête pour quelques-uns. Il était minuit passé. J'allais du vaudeville à la rue Drouot, suivant d'un pas pressé le boulevard où couraient les parapluies. Une poussière d'eau voltigeait plutôt qu'elle ne tombait, voilant les becs de gaz attristant la rue. Le trottoir luisait, gluant plus que mouillé. Les gens pressés ne regardaient rien. Les filles, la jupe relevée, montrant leurs jambes, laissant entrevoir un bas blanc à la lueur terne de la lumière nocturne, attendaient dans l'ombre des portes, appelaient ou bien passaient, pressés, hardis, vous jetant à l'oreille de mots obscurs et stupides. Elles suivaient l'homme, quelques secondes, se serrant contre lui, lui soufflant au visage leur haleine putride, puis voyant inutiles leurs exhortations, elle le quittait d'un mouvement brusque et mécontent et se remettait à marcher en frétillant des hanches. J'allais, appelé par toutes, pris par la branche, harcelé et soulevé de dégoût. Tout à coup, j'en vis trois qui couraient comme affolés, jetant aux autres quelques paroles rapides. Et les autres se mettaient à courir, à fuir, tenant à pleine main leur robe pour aller plus vite. On donnait ce jour-là un coup de filet à la prostitution. Et soudain, je sentis un bras sous le mien, tandis qu'une voix éperdue me murmurait dans l'oreille « Sauvez-moi, monsieur, sauvez-moi, ne me quittez pas !» Je regardais la fille. Elle n'avait pas 20 ans, bien que fanée déjà. Je lui dis « Bon, reste avec moi. » Elle murmura « Oh, merci !» Nous arrivions dans la ligne des agents. Elle s'ouvrit pour me laisser passer, et je m'engageai dans la rue Drouot. Ma compagne me demanda « Viens-tu chez moi ?»« Non. »« Pourquoi pas ? Tu m'as rendu un rude service que je n'oublierai pas. » Je répondis pour me débarrasser d'elle « Mais parce que je suis marié. »« Mais qu'est-ce que ça fait ?» « Voyons, mon enfant, ça suffit. Je t'ai tiré d'affaire. Laisse-moi tranquille maintenant. » La rue était déserte et noire, vraiment sinistre. Et cette femme qui me serrait le bras rendait plus affreuse encore cette sensation de tristesse qui m'avait envahi. Elle voulut m'embrasser. Je me reculai avec horreur et d'une voix dure. « Oh, fous-moi la paix, n'est-ce pas ?» Il eut une sorte de mouvement de rage, puis brusquement se mit à sangloter. Je demeurai éperdu, attendri, sans comprendre. « Voyons, qu'est-ce que tu as ?» Et elle murmura dans ses larmes. « Ah, si tu savais, ce n'est pas gai, va. Quoi donc ? Ben, cette vie-là. Pourquoi l'as-tu choisie ? Est-ce que c'est ma faute ? Alors, qui ta faute, alors ? Sais-tu, moi ? » Une sorte d'intérêt me prit pour cet abandonné. Je lui demandai, « Bon, ben, dis-moi ton histoire. » Elle me la confia. J'avais 16 ans, j'étais en service à Yvetot, chez Monsieur le Rable, un grenotier. Mes parents étaient morts. Je n'avais personne. Je voyais bien que mon maître me regardait d'une drôle de façon et qu'il me chatouillait les joues, mais je n'en demandais pas plus long. Je savais les choses, certainement. À la campagne, on est dégourdi. Mais M. le Rable était un vieux dévot qui allait à la messe chaque dimanche. J'en aurais jamais cru capable, enfin. Et voilà qu'un jour, il veut me prendre dans ma cuisine. Je lui résiste, il s'en va. Il y avait en face de nous un épicier, M. Dutemps, qui avait un garçon de magasin bien plaisant. Si tant est que je me laissais enjôler par lui, Ça arrive à tout le monde, n'est-ce pas? Donc je laissais la porte ouverte les soirs et il venait me retrouver. Mais voilà qu'une nuit, monsieur le rabe entend du bruit. Il monte et il trouve Antoine qu'il veut tuer. Ça fait une bataille à coups de chaise, de pot à eau, de tout. Moi, j'avais saisi mes hardes et je me sauvais dans la rue. Me voilà parti. J'avais une peur de loup. Je m'habillais sous une porte, puis je me mis à marcher et tout droit. Je croyais pour sûr qu'il y avait quelqu'un de tué et que le gendarme me cherchait déjà. Je gagnais la route, grande route de Rouen. Je me disais qu'à Rouen, je pourrais me cacher très bien. Il faisait noir à ne pas voir les fossés et j'entendais des chiens qui aboyaient dans les fermes. C'est donc tout ce qu'on entend la nuit. Des oiseaux qui crient comme des hommes qu'on égorge, des bêtes qui jappent, des bêtes qui sifflent, et puis tant de choses que l'on ne comprend pas. J'en avais la chair de poule. À chaque bruit, je faisais le signe de croix. On ne s'imagine point ce que ça vous émeuve le cœur. Et quand le jour parut, v'là que l'idée des gendarmes me reprit et que je me mis à courir. Puis je me calmais. Je me sentis fin tout de même, malgré ma confusion. Mais je ne possédais rien, pas un sou. J'avais oublié mon argent, tout ce qui m'appartenait sur terre, 18 francs. Me voilà donc à marcher avec un ventre qui chante. Il faisait chaud, le soleil piquait. Midi passe, j'allais toujours. Tout à coup, j'entends des chevaux derrière moi. Les gendarmes. Mon sang ne fait qu'un tour. J'ai cru que j'allais tomber, mais je me contins. Ils me rattrapent, ils me regardent, et il y en a un, le plus vieux, qui dit « Bonjour, mademoiselle. »«
Bonjour, monsieur. »«
Où est-ce que vous allez comme ça ?»«
Je vais à Rouen, en service dans une place qu'on m'a offerte. »«
Comme ça, pédestrement ?»«
Oui, comme ça. »
Mon cœur battait, monsieur, parce que je ne pouvais plus parler. Je me disais, ils me tiennent. J'avais l'envie de courir, qui me frétillait dans les jambes. Mais ils m'auraient rattrapé tout de suite, vous comprenez. Alors le vieux recommença.
Mais nous allons faire route ensemble jusqu'à Barentin, mademoiselle, vu que nous suivons le même itinéraire.
Avec satisfaction, monsieur. Et nous voilà causant. Je me faisais plaisante autant que je pouvais, n'est-ce pas? Si bien qu'ils ont cru des choses qui n'étaient point. Or, comme je passais dans un bois, le vieux dit « Voulez-vous, mademoiselle, que j'allions faire un repos sur la mousse ?» Moi, je réponds sans y penser. « À votre désir, monsieur. » Puis il descend et il donne son cheval à l'autre et nous voilà partis dans le bois tous deux. Il n'y avait plus à dire non. Qu'est-ce que vous auriez fait à ma place? Il a pris ce qu'il a voulu, puis il me dit « Oh, faut pas oublier le camarade !» Et il retourna tenir les chevaux pendant que l'autre m'a rejointe. J'en étais honteuse que j'en aurais pleuré, monsieur, mais j'osais point résister, vous comprenez. Donc nous voilà repartis. Je ne parlions plus, j'avais trop de deuil au cœur. Et puis je ne pouvais plus marcher tant j'avais faim. Tout de même, dans un village, ils m'ont offert un verre de vin qui m'a redonné des forces pour quelque temps. Et puis ils ont pris le trot pour ne pas traverser Barentin de compagnie. Alors je m'assis dans le fossé et je pleurais tout ce que j'avais de larmes. Je marchais encore plus de 3 heures durant avant Rouen. Il était 7 heures du soir quand j'arrivais. D'abord, toutes ces lumières m'éblouirent. Puis, je ne savais point où m'asseoir. Sur les routes, il y a les fossés et l'herbe, où ce qu'on peut même se coucher pour dormir, mais dans les villes, rien. Les jambes me rentraient dans le corps et j'avais des éblouissements à croire que j'allais tomber. Et puis, il se mit à pleuvoir, une petite pluie fine, comme ce soir, qui vous traverse sans que ça ait l'air de rien.
J'ai pas de chance les jours qu'il pleut. Je commençais donc à marcher dans les rues. Je regardais toutes ces maisons en me disant: il y a tant de lits et tant de pain dans tout ça, je pourrais point seulement trouver une croûte et une paillasse. Je pris par les rues où il y avait des femmes qui appelaient les hommes de passage. Dans ces cas-là, monsieur, on fait ce qu'on peut. Et je me mis comme elle à inviter le monde. Mais on me répondait point. J'aurais voulu être morte. Ça dura bien jusqu'à minuit. Je savais même plus ce que je faisais. À la fin, voilà un homme qui m'écoute, il me demande: où est-ce que tu demeures? On devient vite rusé dans la nécessité, et je répondis: je peux pas vous mener chez moi, vu que j'habite avec maman. Mais y a-t-il point de maison où l'on peut aller? Il répondit: plus souvent que je vais en dépenser 20 sous de chambre. Puis il réfléchit et ajouta: allez, viens-t'en, je connais l'endroit tranquille où ce que nous ne serons point interrompus. Il me fit passer un pont et puis m'emmena au bout de la ville, dans un pré qui était près de la rivière. Je pouvais plus le suivre. Il me fit asseoir et puis il se mit à causer pourquoi nous étions venus. Mais comme il était long dans son affaire, je me trouvais tant perclus de fatigue que je m'endormis. Il s'en alla sans rien me donner. Je m'en aperçus même pas. Il pleuvait, comme je vous le disais. Et c'est depuis ce jour-là que j'ai des douleurs que je n'ai pas pu m'en guérir, puis que j'ai dormi toute la nuit dans la crotte. Je fus réveillé par 2 sergots qui me mirent au poste, et puis de là en prison, où j'ai resté 8 jours, pendant qu'on cherchait ce que je pouvais bien être et d'où je venais. Je ne voulus point le dire par peur des conséquences. On le sut pourtant et on me lâcha après un jugement d'innocence. Il fallait recommencer à trouver du pain. Je tâchais d'avoir une place, mais je ne pus pas, à cause de la prison d'où je venais. Alors je me rappelais d'un vieux juge qui m'avait tourné de l'œil pendant qu'il me jugeait à la façon du père Lerable d'Yvetot. Et j'allais le trouver. Oh, je ne m'étais point trompé, il me donna 100 sous quand je le quittais en me disant: t'en auras autant toutes les fois, mais viens pas plus souvent que 2 fois par semaine. Je compris bien ça, vu son âge. Et ça me donna une réflexion, je me dis: les jeunes gens, ça rigole, ça s'amuse, mais il n'y a jamais gras, tandis que les vieux, c'est autre chose. Et puis je les connaissais maintenant, les vieux singes, avec leurs yeux en coulisses et leurs petits simulacres de tête. Savez-vous ce que je fis, monsieur? Je m'habillais en bobonne qui vient du marché, et je courais les rues en cherchant mes nourriciers. Oh, je les pinçais du premier coup. Je me disais: en voilà un qui mord. Il s'approchait, il commençait: bonjour, mademoiselle. Bonjour, monsieur. Où est-ce que vous allez comme ça? Je rentre chez mes maîtres. Ils demeurent loin, vos maîtres? Oh, comme ci, comme ça. Alors, il ne savait plus quoi dire. Moi, je ralentissais le pas pour le laisser s'expliquer. Alors, il prononçait tout bas quelques compliments et puis il me demandait de passer chez lui. Je me faisais prier, vous comprenez, puis je cédais. J'en avais de la sorte 2 ou 3 fois chaque matin et toutes mes après-midi libres. Oh, ça a été le bon temps de ma vie. Je ne me faisais pas de bile. Mais voilà, on n'est jamais tranquille longtemps. Le malheur a voulu que je fisse la connaissance d'un grand Richard du grand monde, un ancien président qui avait bien 75 ans. Un soir, il m'emmena dîner dans un restaurant des environs, et puis, vous comprenez, il n'a pas su se modérer. Il est mort au dessert. Alors j'ai eu 3 mois de prison, vu que j'étais pourtant point sous la surveillance. C'est alors que je vais à Paris. Oh, ici, monsieur, c'est dur de vivre. On mange pas tous les jours, allez, il y en a trop, enfin, tant pis. Chacun a sa peine, n'est-ce pas? Elle se tut. Je marchais à son côté, le cœur serré. Tout à coup, elle se remit à me tutoyer. Alors, tu ne montes pas chez moi, mon chéri? Non, je te l'ai déjà dit. Eh bien, au revoir, merci tout de même, sans rancune. Mais je t'assure que tu as tort. Et elle partit, s'enfonçant dans la pluie fine comme un voile. Je la vis passer sous un bec de gaz, puis disparaître dans l'ombre. Pauvre fille!